Washington.
Bonsoir à tous, c'est Kiabadou avec vous. Il est 17h30 en temps universel, 13h30 ici à Washington. Bienvenue dans cette édition Le Monde aujourd'hui du mardi 13 août 2019. Et à la une de l'actualité, au Mali, de nouvelles attaques dans la région de Mopti. En République démocratique du Congo, deux cas d'Ebola guéris à Goma. Il s'agit de la femme et de l'enfant de l'orpailleur décédé le mois dernier. Au Cameroun, les journalistes sont menacés au cœur du conflit entre le gouvernement et les séparatistes. À Hong Kong, deuxième jour de fermeture du 8e aéroport le plus fréquenté au monde. Dans 10 minutes, ne manquez pas l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. À Goma, deux anciens malades d'Ebola sont sortis aujourd'hui du centre de traitement après des soins. Il s'agit de la femme et le bébé de l'orpailleur venu de l'Ituri et décédé le mois dernier. Après une prise en charge d'environ 14 jours au centre de traitement de la ville, les deux cas ont été guéris et libérés ce mardi. Les précisions de Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma.
Ils sont guéris et ont été libérés du centre de traitement à Goma. Il s'agit de l'épouse et l'enfant de leur père venu de l'Ituri, testé positif le 30 juillet dernier à Goma. Deux semaines ont suffi à l'équipe du docteur Jean-Jacques Muyembe pour traiter et guérir ces désormais ex-malades.
Ebola n'est plus une maladie, qui tue absolument, mais on peut guérir. Mais nous avons deux traitements maintenant, c'est les MAX 114 et les Regeneron. D'après les résultats que nous avons obtenus jusqu'à présent, ce sont ces deux molécules qui sont efficaces.
La cérémonie de leur libération du CTE a lieu dans l'enceinte de l'hôpital provincial de Goma, en présence de plusieurs personnalités, dont le gouverneur de la province du Nord Kivu, M. Karlin Nzanzuka-Sivita. Dans son quartier, Espérance Nabintou et son bébé ont été accueillis par tous les voisins et les curieux. Elle en a profité pour faire un petit témoignage. Déclarée depuis un an, la maladie à virus Ebola a déjà fait plus de 1800 morts sur les 2700 cas confirmés dans la province du Nord Kivu et en Ituri. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Deux Congolais travaillant pour une société minière canadienne enlevés en même temps qu'un Sud-Africain, un Zimbabwéen dans l'est de la République démocratique du Congo ont été relâchés après 17 jours de captivité. Des prises d'otages sont régulièrement signalées dans cette région où opèrent de nombreux groupes armés. L'OMS s'inquiète de cas de rougeole dans le monde qui ont quasiment été multipliés par 3 depuis janvier par rapport à la même période l'an dernier. Il s'agit des chiffres les plus élevés jamais enregistrés depuis 2006. A déclaré un porte-parole de l'OMS à Genève. Les plus grands nombres de cas ont été enregistrés en République démocratique du Congo, à Madagascar et en Ukraine. Au Mali, dans la région de Mopti, malgré la signature des accords de cessation des hostilités, les villages de Djundjulu, dans le cercle de Bandjagara, et Tori, à Bankass, ont été attaqués. Si aucun bilan officiel n'est encore disponible, les populations déplorent des pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants. Nous y reviendront. En Côte d'Ivoire, les hommages continuent d'affluer après la mort de l'artiste Didier Arafat. Ange Didier Huon est décédé à 33 ans suite à un accident de sa circulation. Nous reviendrons sur son parcours et les réactions dans notre partie magazine. Le Cameroun menace tous les journalistes qui, selon Yaoundé, refusent de faire preuve de patriotisme. Un journaliste de la télévision a été arrêté pour soutien présumé aux combattants séparatistes. Un dossier sur lequel nous reviendrons dans notre tranche magazine. Des centaines d'étudiants ont manifesté ce mardi pour la 25e semaine d'affilée à Alger, malgré les vacances universitaires et au milieu d'un déploiement policier important. Ils réclament toujours le changement de régime et la démocratie. Les étudiants ont le souffle long et ils continueront jusqu'à satisfaction de leurs revendications, a déclaré Hamid Mesba, un étudiant à l'université d'Alger. En 4 missions, les sauveteurs de l'océan Viking ont arraché 356 personnes à des canaux de fortune qui ne leur laissent aucune chance sur la Méditerranée. Mais désormais, le bateau s'éloigne de Libye pour trouver un port de débarquement. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a pour sa part demandé au gouvernement européen de consentir au débarquement des quelques 500 personnes secourues ces derniers jours en Méditerranée, dont 151 à bord du navire humanitaire espagnol qui patiente au large de l'île italienne de Lampedusa. Aux Comores, le secteur de la justice est véritablement à l'agonie, estime l'association Planète Réfugiés Droits de l'Homme à l'issue d'une mission en mai et juin dans le pays. Il n'existe pas de véritable politique pénitentiaire dans le pays, affirme aussi l'association dans une note adressée au Parlement européen. L'association souligne également que moins de 3% du budget national est affecté à la justice et que 90% du budget du ministère de la Justice est alloué au salaire des fonctionnaires. Revenons donc sur le Mali avec le reportage de notre, en tout cas le point de notre correspondant sur place, Cassine Traoré.
Doundjolo est un village de 3000 habitants. Dans ce village situé dans le cercle de Banyangara, avec la bonne saison hivernale, les activités culturelles s'y déroulèrent normalement. Malheureusement, il y a eu une attaque dans la nuit du 11 au 12 qui a complètement incendié le village. Deux personnes, selon les habitants, sont portées disparues. Selon un témoin, les populations sont au milieu de la désolation et sans aide de qui que ce soit. Les villageois ont fait ce qu'ils pouvaient, mais l'ennemi était plus fort qu'eux. Doundjolo a été complètement incendié. Les greniers remplis de récoltes, des tonnes d'oignons, tout est parti en fumée. Il ne restait que des cendres, nous confie une source. De l'autre côté, dans le cercle de Bankas, le village de Tori a été attaqué tôt ce matin, mais aucune victime n'est à déplorer. Et pour le moment, le gouvernement malien n'a annoncé aucun bilan officiel des deux attaques. Des attaques qui se passent deux semaines après les concertations locales et la signature des accords de cessation des hostilités devant le Premier ministre qui était en déplacement dans la zone. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Donald Trump a relâché la pression mardi dans la guerre commerciale menée contre Pékin en retardant l'imposition des tarifs punitifs sur une série de produits de grande consommation. Les responsables chinois et américains ont eu un entretien téléphonique qualifié par le président américain de très productif. Le gouvernement américain a donc annoncé reporter au 15 décembre l'instauration de tarifs douaniers supplémentaires de 10% sur les produits électroniques chinois qui étaient prévus pour le 1er septembre. Par ailleurs, Donald Trump a estimé mardi que la situation à Hong Kong était très difficile, mais a dit espérer que la crise puisse se résoudre de manière pacifique sans que personne ne soit tué. L'aéroport de Hong Kong a connu mardi une deuxième journée de chaos avec la suspension ou l'annulation de centaines de vols du fait des manifestations. Le gouvernement local les accuse de précipiter la ville sur un chemin sans retour. Le point avec Idriss Fall.
Les vols avaient repris progressivement ce mardi matin, mais les contestataires ont bloqué les allées et passages conduisant aux zones d'embarquement. Ils ont érigé des barricades avec des chariots à bagages avant de former une chaîne humaine pour empêcher les passagers de passer. En conséquence, les autorités ont annulé les procédures d'enregistrement pour tous les vols prévus à partir du milieu de l'après-midi. Des dizaines de milliers de passagers ont été pénalisés par cette nouvelle action coup de poing des contestataires. Hong Kong, 8e aéroport le plus fréquenté au monde avec 74 millions de voyageurs par an, avait déjà annulé hier tous les vols au décollage et à l'atterrissage. Corrie Lam, la chef de l'exécutif, a de nouveau lancé une mise en garde disant que la violence, que ce soit son utilisation ou son apologie, poussera Hong Kong sur un chemin sans retour vers une situation très dangereuse. Le quotidien du peuple et Global Times, proche du Parti communiste chinois, ont diffusé des vidéos montrant des blindés de transport de troupes se dirigeant vers Shenzhen, la métropole aux portes de Hong Kong.
En Syrie, des affrontements dans le nord-ouest du pays entre les forces loyales à Damas et des forces dominées par des djihadistes ont fait 59 morts ce mardi dans deux camps, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des combats meurtriers font rage depuis plusieurs jours dans la région sur fond de progression territoriale des forces du régime syrien qui ont repris dimanche dans le sud d'Idleb. Déclenché en 2011 par la répression de manifestations pro-démocratie, la guerre en Syrie a fait plus de 300 470 000 morts et déplacé des millions de personnes. En Russie, le Kremlin, confronté depuis un mois à un fort mouvement de contestation, a réfuté toute crise politique et défendu la fermeté de la police, accusée de violations sur les manifestants. Chaque week-end depuis la mi-juillet, des milliers de personnes se mobilisent à l'appel de l'opposition à Moscou pour dénoncer l'exclusion des candidats indépendants aux élections locales du 8 septembre. Certaines manifestations se sont soldées par des centaines d'arrestations. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. L'économie s'est présentée ce soir par Nani Talani.
Le gouvernement camerounais compte réduire de 307,5 milliards de francs CFA les dépenses durant cette année budgétaire et en 2020. L'importation de poissons congelés va perdre à la fin de l'exercice 71 milliards de francs CFA d'avantages fiscaux tant en termes de TVA que des droits de douane. L'an prochain, la suppression des dépenses fiscales touchera les importations de farine et de riz avec un total de 98 milliards de francs CFA. Le gouvernement veut aussi rendre effective la suppression de l'exonération de TVA pour les primes d'assurance vie. Des défenseurs de l'environnement nigérien et internationaux ont lancé une pétition contre le déclassement de la moitié de la plus grande réserve naturelle d'Afrique dans l'est du Niger. En juin, le gouvernement de Niamey avait décidé de déplacer des limites de la réserve pour se conformer au contrat de partage de production qui le lie depuis 2008 à China National Petroleum Corporation. Selon les autorités, une partie de la réserve empiète sur les blocs pétroliers attribués à CNPC. Cette décision exclut près de 45 000 km² de l'aire protégée et entraînerait la disparition de certaines espèces menacées. Terminons cette minute écho par le distributeur sud-africain Stenoff qui veut supprimer des emplois et vendre des actifs pour devenir une société de portefeuille spécialisée dans la vente au détail. C'est son seul espoir de survivre au scandale qui le frappe et qui est relatif à une fraude comptable de 7 milliards de dollars. Stenoff enregistre des pertes pouvant atteindre 4 milliards de dollars par an depuis décembre 2017.
C'est le moment de votre page sportive présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Etia, bonsoir à tous.
Le Mozambique qualifié pour les quarts de finale de l'Afro-Basket féminin.
Oui, un match comptant pour la troisième et dernière journée du groupe D. Le Mozambique a pris la mesure du Cap-Vert 60-51 et valide son ticket pour les quarts. Leader du groupe avant ce match, les Mozambicaines ont bien débuté leur match en remportant les deux premiers quarts-temps 10-3 et 27-21. Elles ont gardé la main au troisième quart-temps avant de s'imposer 60-51. Dans le second match de la journée, la RDC est tombée devant le Mali 82-56.
Le Kenya s'est séparé de son sélectionneur.
La Fédération kenyane de football et l'entraîneur des Harambee Stars, Sébastien Migné, ont trouvé un accord pour mettre fin au contrat de l'entraîneur d'un commun accord, a indiqué le secrétaire général de la Fédération Barry Otieno. Sébastien Migné quitte ainsi ses fonctions après l'élimination précoce du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Je m'en vais, fier du travail accompli et heureux d'avoir modestement participé à jeter les bases futures de cette équipe, a écrit le technicien français sur les réseaux sociaux. Il avait pris la tête des Harambee Stars en mai 2018. Et était parvenu à les qualifier pour leur première CAN en 15 ans.
Le Nigérian Henri Onyekuru signe à Monaco.
Oui, Monaco a officialisé le transfert pour les 5 prochaines saisons de l'attaquant nigérien d'Everton qui avait été prêté au club turc de Galatasaray la saison dernière. Henri Onyekuru, 22 ans, est un attaquant de couloir pouvant jouer sur les deux ailes. La saison dernière, il a participé au sacre de Galatasaray en Turquie en inscrivant 14 buts en 35 rencontres de championnat. La saison précédente, il avait déjà été prêté par Everton à Anderlecht en Belgique, pays dans lequel il s'était révélé en 2016-2017 avec Le Pen en terminant comme meilleur buteur du championnat avec 22 buts.
Athlétisme, des frères norvégiens veulent aider Kipchoge à passer sous les 2 heures.
Les 3 frères athlètes norvégiens, Henrik, Philippe et Jacob Ingebrigtsen, seront présents le 12 octobre à Vienne pour aider le Kenyan Eliud Kipchoge dans sa tentative de courir un marathon en moins de 2 heures. Le champion olympique 2016 et recordman du monde du marathon se lance pour la deuxième fois Dans ce défi privé, il avait couru les 42 km en 2h25 sur l'autodrome de Monza en Italie en mai 2017, aidé par un ravitaillement sur mesure, une voiture et plusieurs coureurs qui se relayaient pour le protéger du vent et lui donner le tempo. Cette performance n'a pas été homologuée par la Fédération internationale d'athlétisme compte tenu de ses conditions.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, toujours en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA et VOA Afrique. Place à présent notre tranche magazine. Le monde de la culture en Côte d'Ivoire est en deuil depuis hier. Didier Rafat, de son vrai nom Ange Didier Huon, a tiré sa révérence à l'âge de 33 ans. Il avait su s'imposer dans le monde du coupé décalé. Aïcha Diarra, notre correspondante à Boaké, revient sur son parcours.
Son premier hit fut un hommage rendu à un de ses amis proches, DJ Jonathan, qui lui aussi est tragiquement mort dans un accident de moto. Ce titre fut le déclenchement de son succès sur la scène musicale ivoirienne. DJ Arafat a toujours su prouver que sa source d'inspiration était intarissable avec le succès de certains de ses titres tels que Dos Abado, 3500 volts, 5500 volts, Pandoukoulé, Tapis Vélo et... Son nom Arafat, il le détient de ses nombreux amis libanais qui le surnommaient sans cesse Yasser Arafat pour son tempérament qu'ils attribuaient à celui de l'ancien dirigeant du Fatah et de l'Organisation de Libération de la Palestine. Il a décidé de faire de ce surnom son nom de scène. Parfois appelé Yorobo, commandant Zapra, Sao Tao le dictateur, aussi surnommé le roi du coupé décalé ivoirien, il est né le 26 janvier 1986 à Yopougon, un quartier populaire de la ville d'Abidjan. En 2012, il reçoit deux prix, celui du meilleur artiste africain de l'année et celui du meilleur artiste masculin de l'Afrique de l'Ouest au Kora Award. Comme lui-même le disait, il était deux fois un Koraman. Tragique ironie du sort, son dernier single Moto Moto bat des records présentement sur YouTube avec plus de 4,6 millions de vues depuis sa sortie en mai dernier. L'artiste était un amoureux de la moto. Malheureusement, c'est cet amour qui l'a emporté vers sa dernière demeure. Le Daichi Khan part pour laisser après lui ses fans appelés chinois du fait de leur grand nombre qui ont du mal à accepter cette séparation. Adieu l'artiste. Aïcha Diarra à Boaké pour VOA.
Donc, à votre avis, ce soir sur VOA Afrique, la mort de DJ Arafat, l'un des plus grands noms de la musique ivoirienne et africaine. Que retenez-vous de sa carrière, si tragiquement abrégée par un accident de la route cette semaine? Que laisse-t-il comme héritage artistique? Laissez-nous votre numéro de téléphone et vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi réagir en direct à la disparition de DJ Arafat en appelant au 001 202 205 26 33 001 202 205 26 33 ce soir à partir de 18h05 dans À votre avis sur VOA Afrique.
Plusieurs personnes ont été guéries de la maladie d'Ebola après un traitement par des molécules d'essai dans l'est de la République démocratique du Congo. Parmi elles, la veuve et le bébé de leur pailleur décédé le mois dernier après avoir été testé positif à Goma. Eddy Isengo, adjoint à Goma, le coordonnateur général de la riposte contre Ebola, docteur Yves Aouka.
Oui, non seulement à Goma, mais ce sont des molécules qu'on utilise depuis novembre dans le cadre d'un essai clinique où on utilisait 4 molécules et les résultats ont montré que 2 étaient meilleurs. En l'occurrence, le MAB114 et le Regeneron.
Et qu'en est-il de 2 autres
hein? L'objet de l'essai était de déterminer quelle était parmi les 4 molécules les meilleures molécules en termes d'efficacité. Et les résultats montrent que les 2 premiers sont les meilleurs. Ça ne veut pas dire que les autres ne soignent pas, mais dans l'optique de pouvoir capitaliser les succès, on préfère utiliser les deux molécules qui ont été meilleures.
Sur combien de personnes ces molécules ont-elles été utilisées et combien ont été guéries?
C'est une recherche, un essai clinique randomisé, l'INRB, qui a porté l'étude en collaboration avec le NH et MSF et Alima, qui sont des ONG humanitaires. Les résultats ont porté sur 89 patients et comme je disais, les résultats en termes d'efficacité ont montré que parmi les quatre molécules, les deux premières étaient MAB en carton et le Regeneron.
Mais on parlait à un moment de molécules faites à l'INRB, je crois l'année passée, l'année dernière. Est-ce que c'est bien cela?
Oui. Parmi ces molécules, il y a une qui est congolaise, c'est-à-dire c'est un anticorps alors, qui a été isolé de... à partir du sang d'un survivant d'Ebola qui a survécu lors de l'épidémie d'Ebola en 1995. Et cette molécule-là, qu'on a appelée MAD-114.
Mais en fait, ce sont des essais. Est-ce qu'il ne se pose pas question d'homologation? Je sais que c'est encore au niveau d'essais.
Non, ce sont des recherches cliniques qui ont suivi toutes les procédures habituelles, d'éthique et des régulations.
Docteur Yves Aouka, coordonnateur général de la riposte contre Ebola en République démocratique du Congo.
Retrouvez VOA Afrique sur Top Congo sur 88.4 FM à Kinshasa.
Le Cameroun menace tous les journalistes qui, selon Yaoundé, refusent de faire preuve de patriotisme. Le journaliste de télévision Samuel Yazizi a été arrêté pour soutien présumé aux combattants séparatistes. Au cœur de ce conflit, les journalistes disent qu'il leur est impossible d'exercer leur profession car ils subissent la pression des séparatistes et du gouvernement. Le reportage de Moki Edwin Kimzek, dont Lionel Gaïma nous fait le récit.
Paul Atinganji, ministre de l'administration territoriale, a déclaré que les journalistes camerounais sont de plus en plus antipatriotiques et a proféré des menaces à peine voilées.
Ils ont l'objectif principal, saboter l'action du gouvernement, promouvoir les tendances sécessionnistes. Je les exhorte à être responsables. Ceux qui ne veulent pas respecter les lois seront considérés comme récalcitrants et traités comme tels.
Atinganji a également ajouté que la plupart des journalistes soutiennent l'opposition et estiment que le président Paul Biya n'est pas le vrai vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2018. Macmillan Ambe, président de l'association camerounaise de journalistes d'expression anglaise, estime que cette menace venant du gouvernement n'était qu'une parmi tant d'autres auxquelles les journalistes sont confrontés depuis le début de la crise en 2016. Selon lui, les journalistes devraient avoir la liberté dont ils ont besoin pour faire leur travail.
Lorsque le ministre de l'administration territoriale donne des leçons à des journalistes sur la manière de faire leur travail, cela ne fait que s'ajouter aux difficultés auxquelles nous faisons face. Nous sommes soumis à la torture, qu'elle soit physique ou psychologique. Nous avons aussi des cas de journalistes qui sont convoqués pour des interrogatoires. Il est donc très difficile pour nous d'opérer.
Notre confrère en B a été enlevé par des combattants séparatistes de Bamenda en février dernier pour avoir critiqué le rappel aux familles à ne pas envoyer les enfants à l'école. Des menaces plus récentes sont venues après l'arrestation par l'armée de Samuel Oasis, un présentateur de Chilean Music Television. Il avait animé des émissions critiquant le gouvernement. Ses avocats disent qu'il a été accusé d'avoir hébergé des séparatistes dans sa ferme, une accusation qu'il a rejetée. La journaliste promise à Kanté de Royal FM, une radio de Yaoundé qui anime également des programmes critiques, affirme qu'elle a été menacée à plusieurs reprises ces deux dernières semaines.
J'ai reçu plusieurs appels téléphoniques où j'ai été menacée. Une voix me disait « Savez-vous que votre fille a toujours besoin de vous ?» J'ai dit « Oui, monsieur. Alors faites attention à ce que vous dites sur les ondes. Je ne sais pas qui appeler. »
Les séparatistes ont lancé leur combat en 2017. Des avocats et enseignants anglophones venaient de protester contre la discrimination dont ils se disent l'objet dans un pays majoritairement francophone. Yaoundé a réagi par la répression et depuis 2000 personnes ont été tuées selon les Nations Unies.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala au Cameroun sur Radio Balafon FM 90.2.
l'administration américaine annonce de nouvelles règles visant à refuser l'octroi de cartes de résident ou la nationalité aux immigrants légaux qui bénéficient de prestations sociales, de bons d'alimentation, d'aide au logement ou des soins subventionnés par la couverture médicale. La nouvelle mesure présentée hier suscite de nombreuses réactions. Le point dans ce reportage de Patsy Widaukutra, correspondante de la VOA, la Maison Blanche, récit Jacques Aristide.
Arturo Balbino est entré illégalement aux États-Unis il y a 14 ans. Il est marié à une Américaine et ses enfants sont nés ici. Son employeur, une entreprise de construction, lui a octroyé une lettre lui garantissant son emploi. Pourtant, en mars dernier, sa demande de carte verte a été rejetée. La raison, l'utilisation par sa famille de bons d'alimentation et de Medicaid, des prestations destinées aux ménages à faible revenu.
Je veux être optimiste et dire que tout va bien se passer pour que je sois de nouveau avec ma famille. C'est très difficile de penser que je ne pourrai pas retourner voir mes enfants.
D'autres immigrants considérés comme un fardeau pour les contribuables risquent de se voir refuser le statut légal. Ken Cuccinelli est directeur par intérim des services américains de l'immigration.
Le gouvernement du président Trump défend à nouveau les idéaux d'autonomie et de responsabilité individuelle en s'assurant que les immigrants soient capables de subvenir à leurs besoins et de réussir ici en Amérique. Notre mesure empêche les étrangers susceptibles de devenir une charge publique de venir aux États-Unis ou de rester ici et obtenir une carte verte.
Désormais, cela va toucher tout migrant qui reçoit une ou plusieurs aides sociales pendant plus de 12 mois sur une période de 36 mois. La mesure entrera en vigueur à la mi-octobre et concernera plusieurs centaines de milliers de personnes défavorisées. Cristobal Ramon est un expert en politique d'immigration au Bipartisan Policy Center.
Cette règle ayant trait à la charge publique a d'ores et déjà dissuadé certaines personnes d'essayer d'accéder aux aides sociales, simplement parce qu'elles craignent d'être détectées par les autorités et en ce qui concerne, par exemple, les contrôles d'immigration ou d'être ciblées.
Le président Donald Trump est candidat à la présidentielle de 2020. Sa fermeté en matière d'immigration est bien vue par ses supporters, d'après Cristobal Ramon.
Pour ses partisans, c'est vraiment une victoire pour le président, quelque chose dont il pourra se vanter à l'avenir, surtout si les démocrates continuent à dire qu'ils veulent étendre les aides sociales aux immigrés clandestins.
Les nouvelles règles n'affectent pas les programmes d'immigration à caractère humanitaire pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. Elles prévoient également des exemptions pour les victimes de la traite humaine et de violences domestiques. Elles ne touchent pas non plus l'immigration familiale, car les citoyens qui parrainent des membres de leur famille pour une carte verte doivent déjà prouver qu'ils peuvent subvenir aux charges financières.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester coaché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Jonathan, oh, Jonathan, 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 Jon
C'est sur ce titre de Jonathan de DJ Rafat que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Michel Joseph. À la console, Sidrak Franklin. C'était Ekiabadou à Washington. Et je vous souhaite une excellente suite de programme à l'écoute de VOA.
VOA Afrique, les infos.